Que Dieu nous bénisse. Nous, aujourd'hui, nous faisons une réflexion globale sur est-ce que la Bible parle de la science? Est-ce que la Bible peut fournir des éléments de science? Est-ce que le grand créateur, le grand concepteur de l'univers a dévoilé à travers l'Écriture les grands principes de sa connaissance, de bâtisseur, de constructeur du monde? Voilà, c'est aujourd'hui que nous allons aborder ce sujet. Notre Dieu, sois béni pour toute ta gloire, manifestée dans ta création et manifestée en Jésus-Christ ton Fils rempli de sainteté et du Saint-Esprit, sainteté, amour, paix, joie et justice. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant et saint que Jésus nous a révélé. Et nous croyons que tu es le constructeur du monde et tu en assures la maintenance continuelle dans ta sainte providence. Nous te louons et te bénissons en Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons prendre Job 36, 22 à 26. Job 36, versets 22 à 26. Dieu est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Voilà une réflexion, une affirmation venu du Dieu Tout-Puissant à travers la bouche de Élihu, un des hommes qui a encouragé Job. Romains chapitre 1, versets 19 à 25. C'est un texte bien connu, mais qui évidemment vient en corrélation avec tout le sujet d'aujourd'hui. Romains chapitre 1, verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous les hommes, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, selon leurs désirs. Ainsi, ils honorent eux-mêmes leur propre corps et déshonorent eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà, ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Et c'est le motif de cet enseignement aujourd'hui, c'est justement que nous ne tombions pas dans ce travers et que nous allions directement vers le Créateur, vers le concepteur du monde. Donc, nous allons aborder rapidement Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous allons prendre certains éléments. Bien sûr, il y a d'autres façons de conduire une réflexion sur la science à travers la Bible. J'ai choisi celle-là pour d'abord donner le goût, le désir de lire la Bible. Genèse chapitre 1, au commencement, en Bereshit, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim, donc Dieu, Père, Esprit, Fils, Christ, créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, tohu-bohu, donc échauffée, vide, sèche. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, donc aucune lumière. Et comme un blizzard, un vent très épais, très chaud, très sec, aveuglant. C'est ça que représente le mot tohu-bohu. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voici donc le mot abîme. Que veut dire abîme ? Au verset 6, et il est parlé encore de ceci, qu'il y ait... Non, je me trompe. Oui, verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Comment se fait-il que si c'est sec, c'est échauffé, qu'il y a ensuite de l'eau? Eh bien, il faut en donner l'explication, évidemment. Nous allons la trouver dans Genèse chapitre 7, verset 11. Genèse chapitre 7, verset 11. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Allons plus loin dans 8, chapitre 8, verset 2. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc, comment expliquer cette parole de Dieu? En fait, le magma terrestre a produit de l'eau. L'eau, c'est de l'hydrogène, H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Le magma terrestre produit l'eau. Et la quantité d'eau fut tellement grande qu'elle submergea la création. Et ce qu'il y a, c'est que l'eau, après, s'est retirée, elle disparut, elle ne s'est pas toute placée dans des nuages. Il y a une partie de l'eau qui a été réabsorbée, à mon avis, par le magma. Aujourd'hui, en Islande, des vulcanologues ont établi le fait, en étudiant les roches volcaniques en fusion qui sortent du ventre de la Terre, que le magma terrestre produisait de l'eau. Déjà depuis de longues années, le professeur Cousteau, avec son bathyscaphe, avait découvert des sources d'eau chaude, pure, au fond des mers, des océans. Depuis lors, Nicolas Hulot, Ushuaïa, avec des outils plus perfectionnés, ont fait cette découverte aussi, et bien d'autres scientifiques d'autres nations. L'eau est donc produite par le ventre de la Terre, par l'abîme, c'est-à-dire le magma terrestre. Et donc, allons voir Job 38, verset 8. Job 38, Job 38, verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Chers amis, nous voyons bien que dans le livre de Job, qui remonte à 21 siècles avant Jésus, que la conception est la même que dans Genèse, au chapitre 1. Au chapitre 7 et au chapitre 8. La mer n'existait d'abord, n'existait pas sur la terre. Les abîmes ont produit l'eau, les fosses abyssales se sont remplies, les océans se sont remplis, et on a actuellement 78% de la planète couverte d'une moyenne d'eau de 3 600 mètres. Cette eau n'a pas été produite par les nuages. Les nuages ont été produits par cette eau dans les océans suite à leur évaporation. Le contrôle de l'eau est assuré par Dieu dans des justes mesures. L'orgueil des flots s'arrête là où Dieu l'a décidé. Et lorsque Dieu a décidé dans le déluge de fixer, de lâcher l'orgueil des flots, les hommes, dans leur perversion, ont été détruits. Maintenant, nous allons prendre un autre fait dans la Bible qui peut être intéressant, hein, qui peut nous attirer notre considération pour la Bible, c'est que la Bible est ronde. Galilée, la Terre est ronde. Galilée a prétendu que la Terre était ronde. Il a risqué sa vie, il a dû se rétracter, parce que les ecclésiastiques ne lisaient pas la Bible. Ils prétendaient connaître la Bible, mais ne la lisaient pas. En fait, Galilée avait raison, et la Bible lui donne raison. Job, chapitre 26, verset 10. J'ai choisi deux versets, je peux en trouver encore trois ou quatre, mais voilà, c'est Job 26, verset 10. Mais je vais commencer au verset 8 pour que vous compreniez la richesse de ce livre de Job. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Formidable. Il couvre la face de son trône et répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Un cercle à la surface des eaux. Comme si les océans, n'est-ce pas? Oui, on a pendant des siècles cru que c'était plat et qu'il y avait un gouffre à chaque bout. Eh bien non, les eaux forment un cercle. C'est incroyable de voir la puissance de la parole de Dieu. Ésaïe 40, verset 22. Ésaïe 40, verset 22. Ésaïe 40, verset 22. Alors, je vais prendre à partir du verset 21. Ésaïe 40, verset 21. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Donc rappelons-nous toujours, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. La terre est ronde. Bien sûr, il y a encore quelques autres versets dans la Bible qui disent la même chose. Les planètes ont-elles des noms ? Regardons Job 38, versets 31 et 33. Job 38, versets 31 et 33. Les planètes ont-elles des noms ? D'où viennent le nom des planètes que nous avons aujourd'hui ? Dans l'horoscope, etc., mais aussi dans la science. Eh bien, déjà, Job cite, et ce n'est pas naturellement Job lui-même, c'est Dieu qui révèle à Job cette richesse incommensurable de la science de Dieu. Il révèle les noms des astres. Job 38, verset 31. Noues-tu les liens des Pléiades? Détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes zodiaques? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Vous avez vu donc des constellations, des systèmes solaires sont cités. Et il y a d'autres textes de la Bible dans le même genre. Maintenant, nous allons aborder un autre sujet qui est assez intéressant. C'est les sentiers des mers. Lisons Genèse chapitre 1, verset 20, et puis ensuite le psaume 8, verset 9. Genèse 1, 20. J'ai été toujours impressionné par cette richesse de la Bible à propos des mères. Alors que les auteurs de la Bible ne sont pas du tout des hommes de la mer. Genèse 1, 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étang du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, que les oiseaux multiplient sur la terre. » Voici donc un beau texte, et regardons ce qu'il en est dit dans le psaume 8, verset 9. Nous pourrions prendre ce psaume pour un livre de poésie et ne pas aller plus loin. Quelque chose de fantasque, etc. Mais figurez-vous que, avec son bathyscaphe, Monsieur Cousteau, puis ensuite Nicolas Hulot, avec des outils, des moyens plus modernes, ont remarqué que les crabes, les langoustes, les poissons, selon leur espèce, ont tous des sentiers dans les mers. Et ils circulent sur des centaines de kilomètres au fond des eaux. Et il est certain que la Bible avait déjà dit cela avant eux. Psaume 8, verset 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je relis, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et comme David n'avait pas une tenue d'homme grenouille, il n'avait pas de bathyscaphe, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé la richesse des mers et des courants, sans doute des courants marins, par lesquels passent les sentiers de tous ces animaux marins. Prenons, bien sûr, maintenant, nous avons lu tout à l'heure, en Genèse 1, versets 20 à 22, que Dieu a créé les oiseaux, les poissons, et leur a donné une ordonnance de se remplir, de se multiplier, de remplir les océans. Mais regardons bien, il n'y a pas que les poissons. Genèse 1, 24. Genèse 1, 24, Dieu dit, c'est-à-dire Elohim au pluriel, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, dit Bara, c'est-à-dire, Dabar. Dabar, c'est le Logos, c'est la parole divine, c'est le Christ. L'ouvrier, le créateur, c'est le Christ. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Voici donc tous ces animaux que nous connaissons, y compris les reptiles et le bétail. Et nous avons déjà entendu parler quelquefois de ces reptiles, de ces animaux. Chez les Juifs, certains animaux sont purs ou impurs, etc. On va en reparler. Mais nous avons parlé aussi, nous avons vu aussi que dans la mer, il y avait des monstres marins, il y avait des animaux importants par leur taille, dans les océans. Eh bien, regardons Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. « En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, de sa grande et forte épée, le Léviathan, le serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. » Vous connaissez tous la fable, la mythologie du Loch Ness en Écosse, du dragon qui sort de l'eau, qui s'est montré quelquefois, ce Léviathan. Cela fait partie de toutes les mythologies anciennes. Toutes en parlent. Il y a donc eu, et il y a peut-être encore, un animal extrêmement puissant dans les océans. Et Dieu le tuera. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu le symbole d'autre chose. Ce n'est pas l'animal en soi qui dérange Dieu. J'ai regardé sur Internet et j'ai remarqué que le Léviathan symbolise la puissance d'une grande royauté de Satan qui viendra sur le monde. Le Léviathan est devenu le nom de cette grande puissance qui va diriger le monde. Bien sûr, avec une pensée et un programme qui n'est pas de Dieu. Un programme anti-Dieu. Cette grande royauté, ce règne de Satan qui durera 7 ans, ce qu'on appelle la période de tribulation. Et ce Satan sera, bien sûr, anéanti. C'est cela que la Bible a voulu dire, mais toujours est-il que dans la réalité des océans, il y a des animaux de plusieurs dizaines de tonnes, il y a des animaux très puissants qui peuvent correspondre à cette image fabuleuse du Léviathan. Maintenant, abordons, si vous voulez bien, la catégorie des animaux purs et impurs. Lévitique 11, verset 10. Lévitique 11, verset 10. Vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires, à propos des animaux dans les océans. Vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Parmi tout ce qui se meut dans les eaux, tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Ça, c'est une chose. Les Juifs, donc, ont cette règle encore aujourd'hui. Parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas, l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, le hiron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Voici donc clairement quelque chose qui est expliqué, c'est que ce sont des animaux recycleurs, comme le porc d'ailleurs, au verset 7, hein, vous ne mangerez pas le porc, ce sont des animaux recycleurs. Ils servent à nettoyer le sol, à nettoyer la nature de tous les corps morts. Et on ne peut pas manger les animaux recycleurs, il faut les laisser faire leur travail. Et ils accumulent en eux toutes sortes de virus, de maladies, de microbes qui ne sont pas positifs pour l'homme. Mais il y a mieux que ça dans ce texte. Continuons. Lévitique 11, verset 21. Parmi tous les reptiles qui volent, alors voilà la nouveauté des reptiles qui volent, et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Alors, vous imaginez, on se croirait dans Jurassic Park, là. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solam, le argol, le agape, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Là, clairement, nous avons l'image de l'archéoptérix, et nous avons l'image d'un toutes sortes d'animaux que... les films de Jurassic Park nous a montré et qu'on retrouve dans tous les livres des enfants dans les écoles, surtout en maternelle. Nous ne pouvons pas manger des reptiles qui volent et qui ont 4 pieds, qui ont 4 ailes. Mais c'est dit par Moïse dans Lévitique en 1430 avant Jésus-Christ. Donc ces animaux qu'on dit existaient il y a qui aurait existé il y a des millions d'années, existait en 1430 avant Jésus-Christ, à l'époque de Moïse. Cela est assez étonnant. Le calcul que nous proposent certaines personnes et qui fixent l'existence de ces animaux à des millions d'années dans le passé me semble faux, complètement faux. Au plus, pour les scientifiques, la plupart des animaux sont apparus dans le Cambrien. Le Cambrien, c'est une époque géologique et historique de la Terre, en 540 000 ans avant Jésus-Christ. Et pas des millions d'années. Quasiment toutes les espèces animales sont apparues presque simultanément à cette époque-là. Et il n'y a pas de millions d'années comme on nous le prétend. Cela ressemble à de la fable au niveau scientifique. Voyons Deutéronome 14, verset 19. Encore un écrit de 1430 avant Jésus, de Moïse. Deutéronome 14, verset 19. Vous regarderez comme impur tout reptile ailé. On n'en mangera point. Donc, vous voyez bien. Vous regarderez comme impur tout reptile ailé. Deutéronome 14, verset 19. C'est la même affirmation que dans Lévitique, qui date du 15e siècle avant Jésus. Est-ce qu'il y aurait une affirmation biblique plus récente? Oui, dans Ésaïe, donc en 780-760 avant Jésus-Christ, 8e siècle avant Jésus. Ésaïe 30, verset 6. Nous sommes loin de tous ces chiffres faramineux de plusieurs millions d'années qu'on nous prétend actuellement dans certains discours pseudo-scientifiques. Ésaïe, chapitre 30, verset 6. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Le dragon volant. J'ai malheureusement perdu la référence. Il y a un autre texte dans Ésaïe où il nous a dit de ne pas manger de ce dragon volant, de ce reptile ailé. Et cela, je la retrouverai en lisant avec persévérance la Bible, mais il est clair que en 780-760 avant Jésus, le dragon volant, ce reptile à quatre pattes ailé volant, existait bien. Donc l'histoire de Jurassic Park n'a fait que incendier la Bible, a voulu écarter la vérité biblique et nous faire retomber dans des fables, des mythologies irréalistes. Prenons un autre texte à propos de la Bible concernant l'Éden, c'est-à-dire le grand paradis terrestre que Dieu a créé. Genèse 2:8. Genèse 2:8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un Éden. On peut dire que la Bible ment. Alors, comment se fait-il que M. Biden est le grand président chinois? S'étant vu dernièrement, il y a 8 jours, en Indonésie, sont en train de calculer la délimitation des eaux de l'océan afin de pouvoir puiser le pétrole et le gaz que ces océans recèlent. Entre la Chine, Formose et les Philippines, et le Vietnam, l'Asie du Sud-Est, d'énormes gisements de pétrole, surtout de gaz. Comment se fait-il que sous l'Arctique, ce pôle Nord qui est en train de fondre, la Russie prétend s'accaparer toutes les mers et se donner le plein droit de propriétaire afin de pouvoir extraire le gaz et le pétrole? Comment se fait-il que la mer Caspienne, qui dans sa plus grande partie ne fait que 8 à 10 mètres de profond, la mer Caspienne, partout, contient du gaz et du pétrole dans son sous-sol? Comment se fait-il qu'on vient de passer des accords entre le Liban, Israël et l'Égypte pour se départager les mers dans la partie de la Méditerranée orientale, à l'approche de l'île de Crète et du Liban, d'Israël et de l'Égypte, se départager, donner des limites à chacun aux eaux territoriales afin de pouvoir exploiter des gisements de gaz prodigieux et les vendre. Comment se fait-il que cet Éden qui a été planté à l'Orient, dans le texte de la Bible, Shekinah, c'est le sud de l'Irak, donc ce qui forme aujourd'hui le sud de l'Irak et le Koweït, etc., Bahreïn, Qatar, comment se fait-il qu'il y a du gaz et du pétrole? Comment un petit pays comme le Qatar est si riche par tout son gaz dans les eaux territoriales du golfe Persique? Comment se fait-il qu'on trouve du charbon dans beaucoup de régions, dans des déserts, dans des montagnes, sous des montagnes, qu'on trouve du lignite? Oui, l'Éden a bien existé. La démonstration de toutes les énergies fossiles qui font l'objet des convoitises de toutes les grandes nations, cette démonstration nous prouve l'existence de l'Éden et de la véracité de la Bible. Le pôle Sud, qui est un continent qui est couvert de glace et de neige, va bientôt être découvert de sa glace et de sa neige. Il va être mis à nu par le réchauffement climatique. Beaucoup dans les multinationales s'en réjouissent afin d'exploiter le gaz, le pétrole, le charbon et tous les autres minerais. La Bible n'a pas menti, l'Éden a existé partout. Dans Genèse, chapitre 1, verset 29, Dieu dit: « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Évidemment, c'était dans cet Éden. Il nous en reste un petit morceau actuellement, pour les 8 milliards d'humains que nous sommes, de cet Éden que nous massacrons de manière inconsidérée. Mais cet Éden a bien existé et il est un cadeau de Dieu. Parlons maintenant des pluies, des nuages, du ciel. Genèse 1:6. Genèse 1:6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, donc un espace, c'est l'espace aérien où passent les oiseaux, les avions, etc., qui est une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc il y a des eaux en bas, il y a des eaux en haut. Les eaux en bas, c'est les océans, les lacs, les rivières. Les eaux en haut, c'est les nuages. Et l'étendue qui se situe entre les deux eaux n'est pas appelée ciel, car le mot ciel représente l'endroit, la divinité de Dieu et la majesté de ses anges, du trône de gloire de Dieu. Les eaux du dessus, les eaux d'en bas, existent bien. Nous allons voir dans Juges, chapitre 5, verset 4, ce que Dieu dit des eaux. Juges, chapitre 5, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent. Les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé en Édom? C'est le sud de la mer morte. D'horribles tremblements de terre, la disparition de quatre villes, Séir, Sodome et Gomorre, et une autre ville, peut-être même encore une autre, une cinquième, qui se trouve enfouie. La terre trembla, les cieux se fondirent. Donc l'eau abonda au moment où il y a eu ce cataclysme. Et la Bible en témoigne. Versets 19 à 20. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, donc les Cananéens qui voulaient oxyre tous les Juifs, les Hébreux, à Tanakh, aux eaux de Megiddo. J'ai visité cet endroit, dans cette vallée où il y a un ruisseau, tout près de la forteresse de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kizon les a entraînés. Le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon, mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. J'ai visité cet endroit et il est clair qu'il y a eu un déluge, une trombe d'eau, et les Cananéens avaient des chars avec du fer, des épées, des armures. Ils étaient trop lourds pour résister à l'embourbement et ils se sont embourbés, ils ont dû quitter les chars et à cause de leurs armures, de leurs épées très lourdes, ils ne firent pas de long chemin. Ils furent oxys par les Hébreux qui n'avaient pas tout cet équipement. Les eaux peuvent parfois être salutaires dans certains combats, c'est pour ça que j'ai lu salutaire pour Israël. Prenons maintenant Job 36. Job 30, d'abord, verset 23. Job 30, verset 23. Il me semble que je me suis trompé. Il me semble que je me suis trompé. Veuillez m'excuser dans mes notes. Oui. Donc, je vais retirer ce verset. Prenons maintenant Job 36, verset 27. Job 36, verset 27. Je commence au verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente, donc l'orage? Voici, il étend autour de lui sa lumière, les éclairs. Il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, Dieu juge les peuples. Il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Donc il y a des orages et des éclairs qui ont été dirigés par Dieu, parfois pour briser des ennemis devant David ou ses hommes qui étaient trop faibles militairement parlant. Chapitre 37 de Job, verset 16. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de métal fondu? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Voilà. Au verset 21, on ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Oui, quelqu'un fait un jour le test de fixer en plein été, dans un ciel dégagé, le soleil et de compter les secondes jusqu'au point où il perdrait la vue. Je pense qu'en plein zénith, en plein été, c'était 27 secondes. La personne est devenue aveugle. Alors, continuons à lire. Le septentrion, donc le nord, le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. La majesté de Dieu s'exprime à travers les merveilles de la création. C'est cela. Reprenons le verset 15 et 16. Job 37, 15 et 16. Sais-tu comment Dieu dirige? Le dirige, ses merveilles. Fait briller son nuage étincelant. Comprends-tu le balancement des nuées? Les merveilles de celui dont la science est parfaite. Donc, nous allons aller dans 38, verset 28. Job 38, verset 28. La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein, de qui sort la glace qui enfante le frimas du ciel? Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Et plus haut, dans ce beau chapitre de 38. Ce beau chapitre 38, plus haut. Au verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Mes chers amis, c'est seulement au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qu'un scientifique français a créé le prisme et qu'il a constaté qu'en envoyant un rayon de lumière, la lumière se divisait. Et pourtant, ici, on est 21 siècles avant Jésus. Donc, la lumière, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Il n'a pas fallu attendre la création du prisme et l'apparition de ce scientifique pour savoir que la lumière se divise. La preuve, l'arc-en-ciel, qui, à travers les gouttes d'eau, manifeste toutes les couleurs de la lumière divisée dans ses différents spectres. Et ça, c'est Genèse, chapitre 8. Alors, continuons dans ce chapitre 38 de Job, au verset 34 et 35. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils de toi? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la lumière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Que la poussière se mette à ruisseler. Chers amis, la majesté des nuages reflète bien la majesté de Dieu, son créateur. Selon la Bible, toute majesté dans la création, dans les créatures, exprime une plus grande majesté, une plus grande gloire encore, appartenant à Dieu seul. au Créateur de l'univers. Est-ce que la pluie aussi pourrait être empêchée de venir? Est-ce qu'il pourrait y avoir des moments où Dieu arrête la pluie volontairement? Oui, à l'époque de Élie, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, Élie a sanctionné le roi Acab et Jézabel, qui étaient des meurtriers des idolâtres, par une absence de pluie de 3 ans. Quelques années plus tard, Élisée a de nouveau prononcé une prière et la pluie n'est pas tombée pendant 7 années. La pluie peut répondre, bien sûr, à la prière des prophètes, à la prière de Christ, à la volonté de Dieu. La pluie peut être distribuée selon des bénédictions et peut être empêchée selon la colère de Dieu. Zacharie 14. Un petit peu avant l'évangile de Matthieu, nous avons Malachie et Zacharie. Zacharie chapitre 14. Verset 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi des rois, je vais commencer au verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, donc Christ, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Nous retrouvons bien sûr cette prophétie dans Joël chapitre 2 verset 23, dans Osée chapitre 2 verset 23, verset 10 et 11. Il y a donc de la part de Dieu une totale souveraineté sur la distribution des pluies sur la terre. La pluie n'est pas due simplement au vent, n'est pas simplement due à des phénomènes météorologiques. La pluie, comme tout le reste de l'univers, est sous contrôle. Au point que, dans une période très néfaste pour l'humanité, où ce grand Léviathan, ce grand empereur du mal va régner sur la terre, Dieu va employer des sanctions très sévères. Nous avons vu celle de Zacharie 14, verset 17, mais il y en a d'autres. Ésaïe 11, verset 15. Ésaïe 11, verset 15. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence, il le partagera en 7 canaux, on le traversera avec des souliers, et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Cette prophétie de l'assèchement du Nil, qui est extrêmement puissant au niveau de l'eau, est très riche dans tout ce qu'il contient, cet assèchement vient d'une sanction de Dieu. Un avertissement pour l'Égypte, qui va se convertir évidemment, et nous le voyons, cette conversion vient au chapitre, à la fin du chapitre 19, je pense. Oui, c'est ça. À la fin du chapitre 19, l'Égypte, au verset 23-25, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera Louis III, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel les armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. » Et nous retrouvons les mêmes bénédictions dans le psaume 87. Donc, il y aura une sanction sévère sur l'Égypte pendant quelques années, au moment de, sans doute, des tribulations pendant 7 années. Pensons bien que sous Pharaon, Joseph avait prévu, avait prédit, prophétisé une période de prospérité de cette année, puis ensuite une période d'absence de pluie et de famine pendant cette année. Sans doute le même signe va être reproduit pour l'Égypte, pour briser l'orgueil des hostiles. Ésaïe 19, versets 4 et 6. Ésaïe 19, versets 4 et 6. « Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectées. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étant défilés sur les eaux seront désolés. » Etc. Vous voyez à quel point Dieu peut briser l'orgueil d'une nation, rien que par l'absence de pluie. Nous avons déjà reçu certains avertissements depuis quelque temps ici en Europe. Prenons un autre texte dans Ésaïe, toujours pour le Nil, 44, verset 27. Ésaïe 44, verset 27. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Il s'agit évidemment du Nil. Je dis à l'abîme des sécheresses, c'est-à-dire que le magma terrestre ne va plus produire d'eau. Il n'y aura plus d'eau douce, d'eau pure qui sort des océans, du fond des océans. Et dans la suite, les fleuves à travers le monde seront taris. Il y aura une conséquence en chaîne, en boucle. Prenons dans Ésaïe, chapitre 23, verset 3. Verset 23, verset 3. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Mais juste avant, si vous voulez, vous pouvez voir que soyez muets d'effroi, habitants de la côte, que comblaient les marchands de Sidon parcourant la mer. Les gens de la côte se nourrissaient de ce qu'apportaient les bateaux, les marchands de la mer. Et cela venait aussi du fleuve, du Nil. Le fleuve était le marché des nations, chers amis. Alors, comme toujours aujourd'hui, les fleuves dans tous les pays sont des voies de navigation, des voies entourées de zones industrielles très importantes et de zones agricoles importantes. Considérons maintenant la sécheresse absolue de l'Euphrate. Jérémie 51, verset 36. L'Euphrate pourvoit la Turquie en eau et permet une richesse agricole très importante. Il y a 22 barrages, le barrage de l'Atatürk sur l'est, au Kurdistan, sur l'est de la Turquie. Eh bien, cela ne permettra pas à la Turquie de résister à la sécheresse. Ésaïe 51, verset 36. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone, je ferai tarir sa source. Pourquoi? Parce qu'il y aura tous des peuples associés à la Turquie, et c'est déjà, ça commence maintenant, qui envahissent, qui vont bientôt envahir Israël, mais qui envahissent les zones kurdes pour le moment. Et cela est décrit au verset 27 et 28. Mais la façon de briser, c'est pour Dieu, c'est d'arrêter l'eau. Alors, allons plus loin à propos de l'Euphrate. Ésaïe 41, 18. Ésaïe 41, 18. Il faut bien se rendre compte que Dieu peut donner de l'eau à qui il veut et la retirer à qui il veut. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, qu'on puisse dominer le problème de l'eau. Seul Dieu le conduit. 41, verset 18, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. » Et cela, c'est une promesse. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux arides le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Mais il y a une épreuve qui précède, elle est au verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, les Éternels, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Il y a donc, bien sûr, une situation dramatique avec l'eau qui est maîtrisée par l'intervention providentielle de Dieu. 44, verset 27. Ça, je vous l'ai déjà lu. Je dis à l'abîme des sécheresses, je t'arrirai tes fleuves. Nous allons passer à Apocalypse 16, verset 12. Apocalypse 16, verset 12. Ceci, c'est pour les temps à venir. Sans doute, au bientôt. Je pense que d'ici 20 ans, c'est certainement réalisé, mais enfin, voilà, nous verrons. Le sixième ange versa sa coupe, la colère de Dieu, sur le grand fleuve, l'Euphrate. Son eau se tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. De l'Orient. Sans doute la Chine et d'autres pays. Donc l'Euphrate sera mis à sec. À sa source, dans Jérémie 51, 36, et il sera bien à sec, puisqu'il ne causera aucun problème pour l'invasion du Moyen-Orient par les rois de l'Orient. Pour la Jordanie, certains cours d'eau de Jordanie ont connu cette sanction. Et aujourd'hui, très peu de cours d'eau en Jordanie ont de l'eau. On voit cela dans Ésaïe 15, verset 6. Ésaïe 15, verset 6, que des cours d'eau de Nimrin sont asséchés. Maintenant, voyons un peu plus loin. Le soleil est-il régulé? Oui, il est régulé. La terre est à une bonne distance, ni trop loin, autrement nous serions congelés, ni trop près, nous serions cuits. Le soleil est bien réglé, la terre est bien réglée. La mise à distance est régulée. Mais pourtant, il y aura un jour où ce soleil va faire une dévastation. Ésaïe 30, verset 26. Tous les scientifiques le savent, qu'un jour cela peut arriver. Tous les scientifiques le savent. Des explosions nucléaires, puisque le Soleil est du plutonium en fusion, des explosions nucléaires à 300, 400 km de sa surface provoquent un échauffement horrible sur la Terre et la disparition de l'informatique instantanément. Donc la ruine soudaine qui était annoncée dans Apocalypse 18, verset 9, la ruine soudaine, tout système économique basé sur l'informatique arrêté en une heure sur la terre. Apocalypse 18, 19. Dans Ésaïe 30, verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. La lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, qu'il guérira la plaie de ses coups. Donc Israël, et bien sûr tous ceux qui ont choisi Jésus-Christ, seront secourus par le Seigneur, et le reste sera brisé par une manifestation solaire hors de contrôle pour les hommes. Les hommes perdront tous leurs moyens de domination informatique à cause de ces champs magnétiques du soleil. Apocalypse 18, verset 19. Apocalypse chapitre 18, verset 19. Donc je vais commencer, si vous voulez, au verset 16. Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence. Tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, étaient détruits. Verset 20, ciel, réjouis-toi sur elle. Vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Donc c'est un texte, évidemment, qui trouve son parallèle, son sens aussi dans Ésaïe 30, verset 26. Le soleil est donc régulé, admirablement bien jusqu'à aujourd'hui, mais un jour il sera régulé pour manifester la colère sur les injustes. J'ai été frappé par un phénomène de santé énorme dans Job 30, verset 30. Je ne pensais pas que cette maladie pouvait exister. Et pourtant, j'ai rencontré quelqu'un qui a connu cette maladie. Job 30, verset 30. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. J'ai rencontré un homme qui, sur une demi-heure de temps, sa peau est devenue noire comme du charbon. Il a fallu le conduire en urgence à l'hôpital de Liège, à l'hôpital universitaire de Sartilmont, et on devait passer toute la demi-heure une espèce de petit karcher à eau chaude, à eau douce, et dépeler toute sa peau noire, au fur et à mesure qu'elle noircissait, qu'elle devenait comme des croûtes noires. Faire partir tout au fur et à mesure. Et ça prenait 20 minutes pour faire tout le corps, il fallait recommencer encore une demi-heure après. Cela a duré pendant des heures et des heures. On a lavé cette peau noire qui s'était déclenchée sur un quart d'heure de temps, et on a traité cet homme avec des médicaments très puissants, et il a pu en sortir. C'est un phénomène très rare qui existe, pourtant qui est bien connu de certains scientifiques. Le nom de la maladie m'a échappé, c'est un nom très compliqué, mais elle existe. Cette peau noircie, est-ce que Job qui en parle, au verset 30, pouvait la comprendre et la connaître? Eh bien, pourtant, il en parle. Au chapitre 18, verset 13, Job, chapitre 18, verset 13, les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort, il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, il se traîne vers le roi des épouvantements. Cet homme qui a connu cette misère a vraiment été dans l'épouvante. Il a été arraché de sa tente, de sa sécurité, où se croyait en sûreté. C'est venu subitement sur lui en 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Heureusement, un médecin était là et a appelé tout de suite un hélicoptère pour l'emporter à cet hôpital qui l'a bien soigné. Certaines maladies décrites dans la Bible existent bien au niveau scientifique, même si elles sont rares. Parlons maintenant d'autre chose. Est-ce que la Bible peut dire vrai à propos de phénomènes historiques? Oui. La tour de Babel, en Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, ressemble étrangement aux tours grandioses du Qatar, de Dubaï, qui sont renées dans la même région. Et ces tours de Genèse 11, on les retrouve encore aujourd'hui dans les déserts d'Irak. On les appelle les ziggourats, les grands temples idolâtres. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore d'autres phénomènes qui peuvent nous intéresser? Oui, nous pourrons en reparler un autre jour. Dans la Bible, il y a d'autres phénomènes naturels qui sont expliqués. Mais je voudrais aborder un second volet. Je recommande vivement le livre de Lee Strobel, L-E-E, Lee Strobel, S-T-R-O-B-E-L, collection Vida, plaidoyer pour un Dieu créateur. Dans ce livre, vous pouvez découvrir la fausseté, le mensonge de la théorie de l'évolution. Dénoncer ce mensonge de la théorie de l'évolution, du darwinisme, dénoncé par des scientifiques. Complètement démoli par des scientifiques. Je vous recommande de lire attentivement ce livre, de prendre des notes et de vous rendre compte que le darwinisme et la théorie de l'évolution sont un mensonge, sont une philosophie matérialiste. C'est une philosophie afin d'exclure la main de Dieu, d'exclure l'intervention divine, d'exclure la possibilité d'un concepteur, d'un créateur. C'est une philosophie hostile à l'idée d'un concepteur de l'univers. Je pourrais, dans un autre exposé, faire un résumé de ce livre et en donner des éléments afin que plusieurs s'intéressent plus profondément à la question. Cependant, je vais donner un fait vécu que je n'ai pas préparé d'avance. À 18 ans, j'ai trouvé un dolmen. À 58 ans, 40 ans plus tard, j'ai demandé au musée Gaumet de Virton de réunir des archéologues de métier autour de ce dolmen et d'en discuter. Nous avons étudié la question et puis ensuite nous avons pris un repas ensemble. Et lors de ce repas, la douzaine de personnes qui étaient là, des scientifiques en archéologie, tous des incroyants, étaient prêtes à recevoir une question inattendue. Je leur ai posé cette question, je voulais en avoir le cœur net. Que croyez-vous de la théorie des chaînons manquants? Est-ce que l'homme descend du singe? Que pensez-vous de Lucie qu'on a trouvée en Indonésie? Que pensez-vous du darwinisme? Ils ont tous ri, unanimement, au même moment, sans se concerter. Mon brave monsieur, j'espère que vous ne croyez pas dans ces théories. Ça n'a rien de scientifique. Ce sont des fables. La science ne nous permet pas de croire des choses pareilles. C'est quelque chose qui est condamnable au plus haut point. Ça n'a pas de valeur scientifique. Nous connaissons des archéologues qui ont fait, avec des tarières, des trous dans le sol, déposer des mâchoires d'hommes ou de singes, et puis qui après ont fait venir les journalistes pour faire un grand article sur une grande découverte. Nous ne sommes pas de cette espèce d'archéologues. Nous sommes des professionnels, des scientifiques. Et cette théorie de l'évolution ne nous intéresse pas du tout. Chers amis, cette douzaine de personnes qui étaient réunies au musée Gomet ont été unanimes. Cela m'a rassuré sur le fait que la parole de Dieu donne un sens à l'apparition de la vie, sur la possibilité de croire en un Dieu créateur, en un Dieu infiniment intelligent et tout-puissant. Mais Dieu nous a laissé la liberté de choisir de l'aimer, de l'adorer ou de nous détourner de lui. Dieu n'est pas dominateur, il est créateur, saint et parfois redoutable, sachant le prendre au sérieux. La science n'a rien contre Dieu. Et la Bible n'a rien contre la science. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.